Claudia, je t'invite à couper ton micro pour le moment,
D'accord.
parce que sinon on va t'entendre sur le live. Claudia, je t'invite à couper ton micro pour le moment,
D'accord.
parce que sinon on va t'entendre sur le live. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio Trois Anges pour l'émission sur le rangement, une des clés de succès du mariage présent ou à venir. Alors, certains d'entre vous auront sûrement été là pour la première intervention de Claudia qui nous a parlé justement de l'organisation de son intérieur. Nous avons le privilège de la recevoir une deuxième fois. Cette fois-ci, justement, pour qu'elle puisse nous parler justement de cette clé de succès du mariage présent ou à venir. Donc, nous espérons que vous serez nombreux à poser des questions, nombreux à participer. Vous pouvez participer au niveau du chat de YouTube. Nous ne serons pas sur Facebook ce soir. Vous pouvez participer aussi au niveau du groupe WhatsApp de la Radio Trois Anges et nous nous ferons un plaisir de relayer vos interventions, vos questions, vos interrogations, vos suggestions ou même vos témoignages à Claudia. Sur ce, je transmets directement, enfin je vais laisser la place à Béatrice qui va nous conduire dans un premier temps et je vous souhaite une très bonne émission. Dieu vous bénisse abondamment. Béatrice, c'est à toi.
D'accord. Merci beaucoup pour ta présentation, ma chère sœur. Je cherche ton prénom. Evelyne, voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons pour notre rencontre où le sujet présenté est intitulé « Le rangement, une des clés du succès du mariage présent ou à venir ». Je ne pensais pas que c'était aussi important. Pour moi, c'est nécessaire. Bon, les commentaires, je m'en passe. Alors, soyez les bienvenus sur Radio Trois Anges pour ce temps d'enseignement. Maintenant, je vous invite à réclamer l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs en priant notre Dieu. Notre Père, veuille nous assister par ton esprit, cette aide indispensable à notre vie, capable de nous diriger dans tout choix, dans tous nos choix. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Viens, notre Dieu, par ta puissance, nous conduire en cet instant. Viens nous purifier par le sang de Jésus, afin que nous soyons à la ressemblance de notre Sauveur. C'est en son nom que je t'ai prié, notre Père. Amen. Ce soir, nous voulons inviter notre Dieu par son Esprit à venir dans nos maisons, dans notre cœur. Voilà. Alors, je vais vous demander de m'accompagner dans un texte que j'aime beaucoup, que Michael, je crois qu'il avait cité il n'y a pas longtemps, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Ça se trouve, ce texte se trouve dans Ésaïe 11, versets 2 jusqu'à 9, si je ne me trompe pas. Voilà. Jusqu'à 10, pardon. Ésaïe 11, versets 2 jusqu'à 10. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Vous savez de qui il s'agit, hein? Esprit de sagesse et d'intelligence, il s'agit bien sûr de Jésus. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera sur la ceinture de ses flancs et la fidélité ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ce sont de belles promesses. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Je voulais vraiment insister sur le mot gloire. Et ce texte, vraiment, je l'ai choisi vraiment pour parler de la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. La gloire sera dans sa demeure. Alors maintenant, je vais vous inviter de glorifier, de venir glorifier notre Dieu avec moi. Appuyons-nous sur notre Sauveur qui nous guérit et qui nous donne son esprit. Chantons ensemble la gloire de Dieu, Dieu de gloire, digne es-tu. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Il y a-tu agneau de Dieu? Il y a-tu agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclame la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Voilà le premier chant que je voulais vraiment chanter avec vous. Ma voix, elle manque un peu ce soir, mais bon, je sais que vous ferez preuve de grande tolérance. Notre Dieu, ton royaume de gloire, le sacrifice totalement incompréhensible de Jésus nous dépasse. C'est vrai, quand je pense à ce que Jésus a fait pour moi, je me dis, j'y comprends pas, je trouve ça tellement absurde, ça dépasse mon entendement. Mais nous voulons croire, avoir la foi, croire, et recevoir humblement, que Dieu reçoive avec toute humilité, humblement, notre reconnaissance. J'espère que ma voix sera un petit peu plus puissante. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois maintenant notre pardon. Puisses-tu me purifier, puisses-tu nous purifier de toute imperfection, de toute faille, tant d'autres actes déplaisants que nous avons tant de mal à délaisser. Cette semaine, je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce qu'on a du mal à perdre ces mauvaises habitudes? C'est vraiment que le Saint-Esprit, par son action bénéfique et puissante, qui pourra nous aider à vivre dans cette transformation-là. Ce soir, je veux m'arrêter sur un psaume, le psaume 51. Que vous connaissez, le psaume 51, c'est le psaume de David. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, je me permettrai de faire un petit commentaire, un petit résumé, s'il le faut. Dans le psaume 51, il est question de pardon. Et c'est un psaume vraiment pathétique. Car il a été écrit à un moment où la vie de l'homme de Dieu, l'homme David, venait de basculer dans un drame terrible. Alors, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, c'est-à-dire David, et David était allé vers Bathsheba, ou comme vous voulez. Nous avons du mal à comprendre comment un homme de Dieu, comme David, ait pu commettre un tel acte. Donc, du coup, aller vers la femme qui n'est pas à lui, et puis la suite, elle est tombée enceinte. Voilà. Cependant, le récit est là, décrivant avec précision non seulement les faits, mais aussi la façon dont le roi a programmé, avec un sang-froid étonnant, l'élimination d'un mari qui était devenu gênant. Voilà le plan de David. Alors, nous ne sommes plus devant une réaction impulsive, mais nous sommes en face d'un plan minutieusement élaboré. La mise en scène délibérée d'un assassinat crapuleux. Ça nous rappelle un peu les émissions criminelles. Alors, cet assassinat est fomenté par un homme pris au piège, peut-être qu'il n'aurait rien dit, et voulant cacher son aventure avec la femme d'un de ses officiers. Donc, il y a des moments où et des circonstances où Dieu lui-même semble intervenir pour empêcher la dissimulation, ce qu'on aime bien cacher, afin de mettre à jour une chose terriblement grave. Il y a des conséquences. Dans cette affaire, on se rend compte que les différents stratagèmes du roi ont tous échoué. Et ça le conduit à l'irréparable. Quel drame! Alors, pour mieux comprendre la gravité de la faute, c'est sûr que nous devons lire toute l'histoire de David. En passant, nous constatons que lorsqu'il le faut, Dieu dévoile et raconte les choses telles qu'elles sont. Le fait que Bathsheba soit enceinte après cette relation n'est pas accidentel. Donc la Bible, si elle révèle la nature aimante et miséricorde, ici la Bible nous révèle la nature aimante et miséricorde de Dieu. David revient, voilà le mot que je voulais employer, avec repentance. Parce que le texte, le psaume 51, que vous connaissez probablement, est un texte de repentance. Et je pense qu'on l'a lu et relu, et on sera amené à le relire encore, parce que ça met l'homme à nu face à son péché. C'est la seule condition qui permet d'être pardonné, c'est-à-dire la repentance, et retrouver la paix, comme le dit encore David. Il dit dans le psaume 32, verset 3, « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » On peut trouver ce texte-là dans le psaume 32, verset 3, comme je vous l'ai dit. Voici quelques textes de la Bible que je voudrais partager avec vous, dont la pensée, elle est similaire. Alors, va crier ces paroles vers le septentrion, et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux de l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Ce texte, on peut le trouver dans Jérémie 3, verset 12. C'est ce qu'a fait le fils qui avait quitté la maison pour vivre sa vie, le fils prodigue. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et là, il rentre en lui-même. Là, on passe à une autre histoire. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Voilà encore une autre histoire où il y a vraiment une repentance sincère. Pour revenir à notre texte que je voulais partager avec vous ce soir, c'est-à-dire le psaume 51, pardon, nous connaissons la suite. Hein. Et je veux juste illustrer cela avec le proverbe, avec le texte qui se trouve dans Proverbe 28, verset 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. » Et c'est bien ce que David a obtenu, miséricorde. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, Jésus est capable de le faire. On lit ce texte dans 1 Jean 1, verset 9. La vérité au fond du cœur. Le psalmiste, c'est-à-dire celui qui écrit psaume, David, nous instruit sur la façon dont il a prié avec ferveur pour être pardonné et retrouver la communion avec Dieu, la joie du pardon et du salut. Et il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Car je reconnais mes transgressions, voilà vraiment de la sincérité. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras, juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Alors, reconnaissant sa transgression, David, il accepte la décision du jugement divin, quel qu'il soit. Puis, tout en faisant un constat de sa nature pécheresse, il assume sa propre responsabilité. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit aussi. Alors, Dieu veut que nous soyons vrais, parce que de toutes les façons, on ne peut rien nous cacher. Alors, ce que nous devrions faire, c'est lui remettre nos fardeaux, ce qui nous embarrasse, dans sa miséricorde, dans sa grâce. Il saura transformer ces montagnes ou encore ses fardeaux en bénédiction et en prise de conscience. Voilà. Nous allons réclamer le Saint-Esprit pour pouvoir nous en sortir. Il n'y a que le Saint-Esprit. La Bible nous dit de demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous révèle nos défaillances. Il est capable de produire en nous le vif désir de changement. Réclamons-le dans notre cœur tous les jours et sans arrêt. Ce changement se produit quand la présence de Jésus est constante. Je veux partager avec vous une promesse qui nous apportera un encouragement. Cette promesse se trouve dans 1 Corinthiens 1, versets 3 et 4, qui dit « Béni soit Dieu ». 1 Corinthiens 1, 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, je lis plus de toi, je dépasse le verset 4, je lirai 5, 6 et 7, 5 que j'ai déjà lu, je lirai les versets 6 et 7. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Voilà, c'est ce texte d'encouragement que je veux dire. La souffrance du péché offre, Dieu prévoit la consolation quand nous vivons dans une vie de, quand nous avons une vie de repentance. Voilà, je voulais partager tout cela avec vous, axer ce temps-là à glorifier notre Dieu et pour pouvoir recevoir Jésus dans notre vie et aussi bénéficier du Saint-Esprit, nous devrions être purs. Nous passerons maintenant à notre deuxième partie. Ce soir, nous voulons donner du sens à nos actes, les plus répétitifs, qui pourraient nous laisser indifférents. C'est vrai que c'est redondant ce que nous faisons. Ces actes peuvent être des clés amenant au succès. Je laisserai donc la place à Claudia, qui nous parlera du rangement, une des clés du succès du mariage présent ou à venir. Voilà, Claudia a maintenant la parole et est à toi.
Bonsoir tout le monde, merci Béatrice pour la parole. En tout cas, oui, je rebondis en disant que le rangement, effectivement, c'est une clé aujourd'hui et demain, en fait, ça a toujours été une clé. Et on va voir pourquoi tout le long, je vais dérouler un petit peu comment je vois les choses et comment je vois les choses aussi à travers des versets de la Bible qui m'ont parlé et qui m'ont parlé aussi pour ce thème de ce soir. Je vais faire un bref récapitulatif de qui je suis et après je vais expliquer un petit peu comment je vais présenter un petit peu le thème. Alors, je suis Claudia Joly, organisatrice d'intérieur depuis maintenant 4 ans. Organisatrice d'intérieur, ça veut dire que je suis autrement dit coach en rangement. Donc, j'aide les femmes essentiellement à s'épanouir en fait dans leur espace de vie à travers le tri, le désencombrement, l'organisation de la maison. Donc, tout cela vraiment dans la joie, la bonne humeur et avec beaucoup de sérieux. J'ai un parcours en psychologie. Donc, aujourd'hui, je mets aussi à disposition mes clientes des tests de psychologie pour justement mettre en avant leur personnalité et pour leur proposer les meilleures astuces pour qu'elles puissent justement entrer dans la maison qu'elles souhaitent, la maison de leur rêve. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement du thème du rangement, mais qui dit rangement dit également désencombrement. Les deux sont liés pour moi. Je ne peux pas parler de rangement sans parler de tri, sans parler de désencombrement. Donc, lorsque je parlerai de rangement, vous entendrez également désencombrement. Alors, pourquoi le mariage? Pourquoi c'est un thème qui me tient à cœur? Parce qu'aujourd'hui, je suis effectivement maman de deux enfants, deux petites filles. Je suis mariée depuis 7 ans maintenant déjà. Et dans toute l'histoire, je vous ferai un petit préambule de l'histoire du mariage aussi dans ma famille, comment j'ai mis en place justement l'organisation de la maison et comment ce qui est important, c'est de s'asseoir et de pouvoir justement discuter des personnalités de chacun et de mettre sur la table qui et comment on est, comment on s'organise justement déjà notre propre personnalité et comment on va faire pour fonctionner ensemble, parce que c'est là toute la clé justement, c'est discuter et fonctionner ensemble pour que justement ce mariage-là soit un succès. Alors, autre chose aussi qui m'a fait parler de ce thème, c'est essentiellement que j'entends, j'ai des retours aussi lorsque je fais mes diagnostics, je discute avec tout un chacun. J'ai eu plusieurs histoires qui me reviennent, qui sont peut-être aussi difficiles à entendre, qui sont là et qui me tiennent, qui me prennent aux tripes. Et notamment une que j'ai encore appris encore la semaine dernière. On me relatait cette histoire d'une femme qui finalement n'arrivait pas à rentrer dans justement l'organisation dans sa maison. Et son mari, ayant eu marre de la situation, il n'arrivait plus à rentrer chez lui parce que la maison était sans dessus-dessous. La maison était justement pas rangée, pas organisée, pas désencombrée pour le coup. Donc, le monsieur n'arrivait plus à rentrer, du coup restait dehors, traînait dans les bars, et du coup après la chute du mariage. Donc c'est des histoires qui reviennent, que j'entends, qui sont douloureuses, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là pour militer, pour donner des clés à toutes ces femmes, pour qu'elles puissent rentrer justement dans une organisation et qu'elles puissent tenir aussi leur mariage à terme. Donc je vais m'adresser ce soir notamment à celles qui sont mariées, mais à celles aussi qui souhaitent de se marier, parce qu'il y a des clés, il y a des choses à mettre en place pour justement réussir à rentrer dans ce mariage-là. Donc, je vous ai relaté l'histoire et je vous ai dit effectivement que rangement et désencombrement vont de pair et c'est là où on va parler tout le long. Donc, comment on va procéder ce soir? On va parler en deux parties. Une première partie sur l'avant-mariage et la préparation, c'est une partie préparation, et c'est une partie, je dirais, solution, conseil pour justement mener à bout, à terme justement, cette partie de mariage. Je vais vous présenter également comment me retrouver, qu'est-ce que j'ai mis en place aujourd'hui, les clés que vous pourrez télécharger aussi sur ma page Instagram par la suite. Voilà, donc nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Tout commence dans Hébreux, donc Hébreux 5, verset 13. Donc, ça nous dit, la parole de Dieu nous dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Donc, je reprends. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Et ce verset-là m'a parlé parce que aujourd'hui j'ai une petite fille, j'ai deux petites filles, comme je vous ai dit, mais j'en ai notamment une de 6 mois qui est totalement dans la transition lait et qui va bientôt passer à la nourriture mixte. Et à un moment, effectivement, dans la vie de tout un chacun, on est au lait, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'expérience, on est encore un enfant. Et clairement, le mariage aujourd'hui, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour ceux qui sont encore au lait, c'est pour les personnes qui sont préparées. Donc, voici quelques versets aujourd'hui qui m'ont encore tenu à cœur pour pouvoir justement préparer et prendre conscience que l'une des clés du rangement, l'une des clés du succès du mariage, c'est aussi, passe aussi par le rangement et encore d'autres clés que ce ne sont pas toujours de mon ressort, mais je pourrais encore en discuter rapidement. Donc, quand je parle de l'expérience de la justice, le mot justice m'a interpellée. L'expérience de la parole de la justice. Donc, j'ai fait des recherches dans le Laos qui nous indique la valeur, enfin, la définition du mot justice. Donc, là, aujourd'hui, le mot justice, du coup, la deuxième définition, c'est la qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Je répète, qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Donc, je me suis dit, mais quels sont les droits d'autrui dans le mariage? Et l'expérience justement de mariage m'a appris et m'a permis de dire aujourd'hui qu'on ne se marie pas pour soi, on ne se marie pas parce que c'est fun, on ne se marie pas parce que pour X ou Y raison, mais on se marie pour faire, parce qu'on doit aimer l'autre, voilà. Et notre but, c'est de faire plaisir à l'autre, clairement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si on souhaite être tout le temps, on souhaite que l'autre souhaite tout le temps vienne nous faire entrer dans une joie, on attend de l'autre qu'il nous rende heureux. Non, si on est censé rentrer dans le mariage pour donner. Et en fait, aujourd'hui, la place d'autrui, donc, quand je reprends la définition, donc qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Donc les droits d'autrui, qu'est-ce que c'est les droits d'autrui dans le mariage, notamment au niveau du rangement? Ça, c'est une question que je laisse en suspens, on va y répondre au fur et à mesure. Autre verset qui m'a interpellée aussi pour ce thème. C'est dans Proverbe 24, verset 3, Proverbe 24, verset 3, où il est dit, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Donc, ce qui veut dire que si à partir du moment où on a l'expérience de la parole de la justice, donc ça veut dire qu'on n'est plus au lait, qu'on a la sagesse pour pouvoir justement élever cette maison dans des critères de rangement, d'ordre, de justice, et que par l'intelligence, du coup, qu'elle s'affermit. Donc, on a la sagesse, quand j'ai cherché encore la définition du mot sagesse. Donc, sagesse, donc, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve de jugement droit, sert averti dans ses décisions, dans ses actions. Donc, ça veut dire que quelqu'un de sage va prendre les bonnes décisions pour maintenir son foyer, pour maintenir sa maison, pour que sa maison soit élevée. Comme on a dit dans Proverbe 24, 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, quelle est la définition du mot intelligence? Là encore, j'ai cherché et je me suis bien attardée sur aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens, des actions en fonction des circonstances. Donc, ça veut dire que la sagesse et l'intelligence, ce sont deux mots qui sont essentiels à une bonne construction d'un foyer, et notamment dans une bonne construction d'un foyer équilibré à travers le rangement. Alors, quel est le rangement aujourd'hui? Qu'est-ce que veut dire le rangement aujourd'hui? Donc, le rangement, la définition du mot rangement, c'est-à-dire, donc aujourd'hui, la définition du mot rangement dans le Laos, c'est action ou manière de ranger, donc je pourrais dire d'organiser, de ranger quelque chose, ou d'y mettre de l'ordre, le fait de mettre justement quelque chose bien classé. Donc, on a vu la définition de la sagesse, de l'intelligence, de la justice et du rangement. Tous ces mots-là, groupés ensemble, ça donne ce verset-là, qui est Luc 14, verset 28. « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. » Je reprends, Luc 14, 28. « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. » Donc, ça veut dire que lorsqu'on a effectivement pris conscience qu'on n'est plus au lait, qu'on a pris conscience qu'on a acquis une certaine expérience pour pouvoir justement rentrer dans cette phase préparatoire peut-être du mariage, ou si on y est déjà entré, c'est à ce moment-là qu'on s'assoit et qu'on reste sage en s'asseyant pour pouvoir bâtir une tour. Là, dans le verset, la tour représente le mariage. C'est-à-dire que la tour, une tour, c'est quelque chose de haut. C'est quelque chose qui a été construit par étapes. Et plus c'est haut, plus théoriquement, ça a des fondations solides. Parce que théoriquement, une tour qui est bien haute, il faut vraiment avoir de bonnes fondations pour qu'elle puisse tenir. Pour qu'elle puisse tenir contre vent, contre marée, si je puis dire. Parce qu'on sait que ça prend un certain nombre d'années pour faire élever sa tour. Donc, il faut s'asseoir, effectivement, donc être sage, commencer à calculer, donc être intelligent, pour voir quelles dépenses il faut pour pouvoir terminer cette tour. Donc, quand je dis quelles dépenses, là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir la partie ordre, bienséance et les conseils que je voulais vous donner pour que vous puissiez justement rentrer dans les clés de ce mariage-là. Un autre verset aussi qui m'a parlé aussi, dans toute la préparation, c'est « Une femme sage bâtit sa maison, et la femme est censée la renverse de ses propres mains. » Proverbe 14, 1, « Une femme sage bâtit sa maison, et une femme est censée la renverse de ses propres mains. » Donc, l'en au corps, ça sous-entend, enfin, en tout cas la Bible montre quand même que la femme bâtit sa maison. D'accord? Donc la femme, à la fois elle peut bâtir sa maison, mais à la fois elle peut la renverser de ses propres mains. Ça veut vraiment dire que c'est même pas la faute de quiconque. Elle ne peut pas jeter la faute sur quiconque. Elle est de sa responsabilité de bâtir sa maison. Et bâtir sa maison à travers des rangements, à travers de l'organisation. Alors, quand je parle de rangement, de quoi je parle? Je parle de... Alors, je vais rentrer maintenant dans différents conseils. Donc, le premier conseil que je peux donner, déjà en tant que célibataire, c'est de faire de la place. Apprenez à faire de la place. Déjà pour vous-même, parce que, clairement, faire de la place, ça va vous désencombrer l'esprit, d'une part, et ça va vous aider, justement, à rentrer dans ce que vous voulez vraiment. Quelles sont les choses qui vous attachent aujourd'hui au point de justement ne pas pouvoir vous en séparer. Le conseil que je vous dis, justement, en termes de faire de la place, j'ai une petite anecdote là-dessus. Lors d'un rendez-vous client, j'avais une cliente qui, elle s'est retrouvée avec tellement, tellement de choses, et pourtant, elle était très organisée. Alors, c'est ça qu'il y a une différence aussi entre rangement et organisation. Des fois, elle n'avait pas assez de rangement parce qu'elle avait beaucoup de choses qu'elle avait déjà quand même organisées. Donc là encore, on voit qu'il y a plusieurs profils. Et là, en fait, dans son profil, c'était « je, j'ai, donc je suis ». Je possède, donc je suis quelqu'un. Et en fait, l'idée, c'était de déconstruire toute cette partie-là en te disant, tu peux posséder tout, tu peux posséder peu, mais tu peux toujours être quelqu'un. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as rien, c'est enfin, aux yeux du monde que tu n'es pas quelqu'un. D'accord? Donc ça, c'est un premier conseil, c'est vraiment faites de la place et sachez que ce que vous possédez ne fait pas ce qui vous êtes. Deuxième conseil que je peux dire aussi, pour revenir à la cliente précédente, aussi, elle était aussi dans une phase de préparation du mariage. Et en disant que le fait de commencer à faire le tri désencombré avec mon coaching de désencombrement, on était en train justement de faire de la place. Et se disait, voilà, en faisant de la place, parce qu'elle, du coup, elle était elle a acheté son appartement et tout ça, en faisant de la place, elle se disait, ben écoute, ça me permet de faire de la place pour accueillir aussi quelqu'un. Parce que le fait de désencombrer, ça te permet de laisser de la place et de voir qu'il y a quelqu'un qui peut vivre aussi dans cette maison avec soi. Autre chose que je voudrais rajouter, c'est commencer à préparer des espaces communs dans la famille. Donc, je parle déjà des personnes qui sont mariées, par exemple. Préparer des espaces communs, mais préparer aussi des espaces séparés. L'idée, c'est que chacun ait son espace dans le couple, qu'on ne puisse pas se retrouver à avoir à avoir justement toutes les robes juste à côté dans un petit espace dans l'armoire du mari en question. Parce que voilà, je me dis, je n'ai pas assez de place dans mon armoire, donc j'emprunte dans l'armoire de mon époux. Apprenez vraiment à vous dire, cette place-là m'est dédiée, cette place-là, elle m'est réservée, je n'ai pas le droit, dites-vous, hein, je n'ai pas le droit d'y mettre en fait des affaires autres que les affaires de mon époux dans son espace. Je dis ça pourquoi? Parce que si on revient à la justice, si on revient à Hébreux 5 qui nous dit « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Il y en a dit que la parole de justice, en cherchant le mot « justice », que c'est respecter les droits d'autrui. Qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui, la justice. Donc, pour revenir à la séparation des espaces, le fait de respecter le droit d'autrui, en prenant en compte justement cette expérience, et prendre la lucidité qu'on doit effectivement laisser la place de rangement à notre conjoint. Enfin, je parle plutôt des femmes aujourd'hui, ce soir, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein, mais de laisser la place justement au conjoint, qu'il ait sa place bien déterminée, de ne pas en venir emprunter, parce que c'est sa place aujourd'hui. Autre conseil que je voulais vous donner, donc là, je vais vous parler de sept autres conseils pour désencombrer, notamment les sept raisons qui vont vous aider à avoir une maison justement organisée, une maison mieux rangée. Donc, la raison numéro une, ce sera justement que vous aurez plus de place. Donc, quand je vous dis, le premier conseil que je vous ai donné, c'est plus de place, faire plus de place, mais là, c'est effectivement, vous aurez plus de place parce que du coup, vous pourrez circuler librement dans chaque pièce et retrouver vos affaires plus facilement, vos affaires dans votre propre espace. Deuxièmement, vous aurez un gain de temps en désencombrant effectivement et en rangeant au bon endroit parce que du coup, vous pourrez retrouver vos affaires rapidement. En termes de finances, d'économie, c'est non négligeable également parce que faire justement place, désencombrer, prendre le temps de construire justement cette tour pour pouvoir calculer les bonnes choses, ça vous évite de racheter des choses que vous avez déjà. Ça vous évite de faire des doublons parce que sous prétexte que vous n'avez pas retrouvé justement cette fameuse robe rouge qui doit se trouver quelque part sous le lit. Je dis ça, je grossis un peu, mais en soi, c'est ça. le fait de faire des économies parce que vous n'aurez pas arraché des choses, parce que vous ne parvenez pas à retrouver vos affaires. Autre raison pour désencombrer, et qui vont faciliter aussi le couple, qui va faciliter le gain de temps. Je reviens au gain de temps aussi. Avoir plus de temps pour retrouver ses affaires et en rangeant quotidiennement ses affaires, c'est du temps que vous allez gagner aussi le week-end pour faire des sorties en famille, des sorties en couple, parce que vous n'aurez pas à avoir ces tâches qu'on dit ingrates qui se retrouvent bien souvent le week-end parce que ça n'a pas été fait petit à petit dans la semaine. Autre chose, vous aurez plus de sérénité, clairement. Moins de stress, plus de sécurité parce que vous allez vous sentir en paix en voyant votre espace désencombré, en voyant les rangements adaptés parce que, bien sûr, il n'y aura pas le désordre constant que vous voyez visuellement. Plus de sérénité aussi, pour revenir à l'histoire du départ qui était quand même assez douloureuse. C'était un couple qui se séparait parce que justement la maison était sans dessus dessous parce que la maison n'était pas propice à un climat, propice à ce que le couple puisse se développer de façon, comment dirais-je, justement, serein. Donc, l'idée, c'est vraiment que la sérénité vive, que ce soit un climat serein, que le fait que ça soit organisé, que tout soit désencombré dans le couple, que ça, justement, que ça crée ce climat serein et ce climat déstressant parce que l'ordre commence à être effectivement visible et à avoir du résultat sur la bonne santé du couple, de la famille. Autre chose, pour ceux qui sont là ce soir, qui ont des enfants, désencombrer, c'est important parce que c'est une valeur que vous allez enseigner à vos enfants. Plus tard, le fait que ce soit des enfants organisés, qui souhaitent avoir des choses soignées, qui respectent du coup le bien qui a été donné, parce qu'une maison, c'est un bien qui a été donné par non seulement les parents en héritage, mais par Dieu, parce que Dieu il prend soin de ses enfants en leur donnant un toit. Donc, prendre cette valeur-là comme étant une valeur importante pour les enfants, je trouve ça aussi intéressant. Dernièrement, désencombrer et avoir un rangement adapté à la maison, dans le couple, ça va vous permettre aussi d'améliorer votre climat social. Vous pourrez avoir le plaisir et l'honneur d'inviter des amis. Parce que je sais que, clairement, en ayant fait justement des diagnostics, en ayant eu des clients, des clientes pour justement la partie tri, j'ai beaucoup de clients qui me disent aujourd'hui, je ne reçois plus parce que ce n'est plus possible. Je ne peux pas recevoir parce que je n'arrive pas à m'organiser et je me sens mal. Et c'est vrai que c'est un lourd fardeau parce que peut-être madame a envie d'inviter, monsieur a envie de recevoir, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'ils seront toujours peut-être appelés ou invités quelque part et souvent, ils n'arrivent pas à donner le retour. C'est-à-dire, quand je dis le retour, je parle du recevoir eux à leur tour. Et en fait, ils n'arrivent pas à le faire. Et le fait de désencombrer, de réorganiser la maison, ça permet justement de pouvoir mieux recevoir et d'avoir un climat social aussi plus équilibré. Parce que dans le couple, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais avoir des amis qui sont sains, des amis qui nous portent dans le cœur et qu'on puisse justement avoir ce rapport sain entre différents amis, mais ça permet aussi au couple d'être équilibré par la suite. Autre chose, je voulais vous dire, pour terminer, des clés aussi en termes de technique. Donc, il existe deux types de désordres et donc deux types de rangements. Donc, le désordre qu'on dit structurel et le désordre qu'on dit rampant. Alors, le désordre rampant, c'est le désordre, en fait, des choses qui vont traîner, qui ne seront pas à leur place. Le désordre structurel, ce sont des choses qui n'ont pas de place et qui sont, par exemple, dans des cartons en attendant le rangement idéal. Donc, moi, ce que je vous conseille aujourd'hui pour justement avoir un point de vue bien pratique sur quel type de rangement pour quel type d'espace, ça encore, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on peut discuter d'un diagnostic. Là, je pourrais encore être force de proposition pour vous expliquer ce que vous aurez à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord d'abord, parce qu'hier encore, j'ai fait encore un diagnostic et j'expliquais encore à la rongeuse en question qu'est-ce qu'il fallait qu'elle mette en place. Bon, en gros, mettre en place, c'est trier d'abord, commencer à trier essentiellement soit par pièce, soit par catégorie en fonction du chantier. Et après, penser au rangement. Donc, en ce qui concerne le désordre structurel, ça, ce sera vraiment en dernière partie. Le désordre rampant, ça veut dire que c'est des petites choses qui rampent hein, un peu partout. Ça, c'est de notre pouvoir, parce que ça a certainement une place qu'on peut déjà lui définir une place et après rentrer justement dans, petit à petit, le rangement structurel. Quand je dis rangement structurel, s'il n'y a pas d'armoire, forcément, le désordre, il sera perpétuel. Donc, il faudra créer un rangement adapté, donc un rangement structurel, notamment une armoire. C'est un cas classique pour la chambre à manger, mais aussi pour la cuisine. L'idéal aurait été d'avoir des meubles de cuisine aussi pour ranger toute la partie vaisselle. Voilà, donc, ces deux conseils que je peux vous donner aujourd'hui, parce qu'il y a deux types de désordre, deux types de rangement, pour le coup. Donc, ranger ce qui est à votre portée, là où vous savez que vous avez déjà un rangement structurel, vous rangez. Et là où vous n'avez pas encore de rangement structurel, à ce moment-là, vous faites le tri et vous commencez à penser au rangement juste après. Pour terminer, donc nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Pour terminer, si vous voulez me retrouver, savoir un peu qui je suis, comment je fonctionne. Je suis la vie d'intérieur, du coup. La vie d'intérieur, parce que dans la maison, ça a une double signification. On a une vie intérieure qui nous reflète dans la vie de la maison. Vous pouvez télécharger mon workbook. Donc, je vous ai créé un workbook qui parle des 7 habitudes à avoir pour garder une maison ordonnée. Voilà, et vous pouvez aussi comprendre, en fait, quels sont les mécanismes en fonction de chaque habitude, notamment la routine du soir, la routine du matin, qui sont vos routines clés, pour pouvoir garder une maison ordonnée et organisée. Et tout ça va vous donner des clés pour justement structurer, vous préparer aussi à la saison de mariage pour celles qui sont en pleine préparation. Et pour celles qui sont dedans, vous donner des clés pour justement, si vous savez qu'il y a des choses à revoir, que vous êtes là avec ce petit workbook-là pour vous donner déjà les bons conseils pour avancer. Voilà, donc je termine avec notre passage dans Corinthiens 14 qui nous dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et bien sûr, soyez bien en vous et soyez bien chez vous.
Merci beaucoup, Claudia.
Oui, Béatrice, de rien.
Très instructif. Très instructif, pardon. Alors, j'espère que, chers auditeurs de Radio 3 Anges, vous avez été attentifs durant cette rencontre. En nous appuyant sur Luc 14, verset 28, nous sommes invités à grandir, donc acquérir de l'expérience, être sage et surtout intelligent. Durant cette rencontre, notre thème qui était celui du rangement, donc nous sommes invités à faire de la place, désencombrer. Voilà, c'est ce que nous devrions faire pour dégager du temps. C'est ce que j'ai retenu, du temps pour être ensemble en famille. Voilà, vous aurez l'occasion de réécouter en replay, puisque c'est sur YouTube cette émission. Alors, nous avons… Alors,
juste un instant, Béatrice, tu vas parler de la question. Je ne sais pas si tu l'as vue.
Pas du tout, parce qu'en même temps, je suis sur le Zoom et je regarde le chat de temps en temps.
Alors, D'accord.
C'est bien de m'avoir…
Vas-y. Je me permets de prendre la parole. Nous avons eu une question. Est-il prudent de se marier avec un homme qui est justement son opposé par rapport au rangement et à la propreté d'une maison?
Très bonne question.
Alors, j'en profite juste pour dire, si vous avez d'autres questions, c'est le moment, parce que sinon, vous n'aurez pas la réponse.
Tout à fait. Alors, est-ce que je dirais que ce n'est pas un motif pour ne pas se marier, mais c'est un motif pour parler suffisamment tôt. Voilà, pour parler en fait de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, en ayant écouté les conseils, vous savez que c'est quelque chose qui peut vous desservir le couple. Donc, c'est important que chacun puisse faire des efforts, que chacun puisse se dire, voilà, je suis plus chez maman, chez papa, qu'on puisse mettre de l'eau dans son vin et qu'on puisse se dire, bah, écoute, là, je suis censée construire une tour, je suis censée construire un mariage, quelque chose qui dure et vraiment rentrer en fait dans du sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des routines, des habitudes qu'il faudra mettre en place pour justement faire passer et faire crucifier ce vieil homme, si je puis dire. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas.
Alors, j'ai demandé à la personne qui a posé la question si la réponse lui convient. Donc, j'attends sa réponse.
D'accord.
Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Mais en tout cas, tu as parlé de beaucoup discuter avec la personne en amont.
Tout à fait. Tout à fait. Et savoir justement les limites de chacun. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, si c'est une limite et que tu sais que tu ne pourras pas supporter ça, je pense que c'est important aujourd'hui de soit mettre le haut là, soit vraiment discuter avec la personne. Vraiment. Parce qu'il faudra mettre, de toute manière, ça c'est un aspect qui est peut-être chez lui aujourd'hui, mais c'est un aspect que toi aussi, tu as peut-être chez toi, que lui, il ne pourra peut-être pas supporter. Donc, voir vraiment... quelles sont les zones qui sont sensibles dans le couple et en discuter au préalable.
D'accord. Et alors, du coup, je vais compléter. Est-ce que la discussion est nécessaire ? Est-ce que la discussion est suffisante ?
Alors, la discussion est suffisante.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Je comprends ce que tu veux dire. La discussion, elle sera suffisante. Dans le sens où le tour du sujet et comprendre que chacun s'engage. Parce qu'il y a aussi on dit le mariage, c'est le pour et le contre, c'est le meilleur et le pire. On le dit et on le sait. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu es consciente que si effectivement, soit un défaut ou effectivement une habitude qu'il a depuis plusieurs années, à ce moment-là, c'est vraiment prendre en compte que voilà, c'est, je le prends avec ses défauts, mais je suis là aussi, pas pour le changer, parce qu'on n'est pas là pour le changer, mais je le prends avec ça et en sachant que voilà, que tu es censé prendre ce côté très artistique qu'on peut dire. Hein, en général, on dit que c'est les artistes qui sont un petit peu éparpillés, mais prendre cela comme effectivement peut-être une force ou une faiblesse en fonction de la personne. Voilà, donc mais discuter, c'est déjà un premier point. Et si ça ne fonctionne pas, ben ça ne fonctionne pas, il faut passer à autre chose. Voilà.
Alors, je continue, hein, j'alimente par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, on discute, on s'engage. Est-ce que, pour le coup, ce n'est pas intéressant de se faire accompagner en amont, c'est-à-dire avant même le mariage? Parce que là, tu expliques des conseils pour après le mariage. Mais est-ce qu'il y a possibilité, en tant que couple, quand on voit qu'il y a une problématique avant de se marier, de se faire accompagner sur le sujet, d'être coaché justement parce qu'on a besoin d'aide? Donc là, il y a justement un commentaire. En fait, il m'a dit que son grand-père était pire, donc que c'est une tare générationnelle, mais il fait des efforts, mais il n'est pas encore dans la constance.
Il n'est pas dans la quoi ?
Dans la constance.
Dans la constance, ben, écoute, avec beaucoup de prières et d'actions, ça veut dire que la constance viendra. Mais s'il y a une prise de conscience qui est faite, c'est déjà le début de quelque chose. Et oui, tout à fait, le coaching peut être mis en place en amont et c'est vraiment intéressant, effectivement, de savoir déjà certaines failles et de discuter de certaines failles. C'est pareil pour les finances. Il y en a qui sont très dépensiers, il y en a au contraire qui sont très économes. Et c'est important d'en discuter avant le mariage, savoir le niveau de dépenses de chacun et comprendre si on va faire un compte joint ou pas. Et voilà, donc c'est pareil pour le rangement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais que celui-là, il sera peut-être plus dépensier niveau vêtements. Ça veut dire que théoriquement, si elle est du genre à vouloir acheter et acheter et acheter, il faudra peut-être se calmer sur déjà les achats. D'une part, et puis aussi voir s'il y a possibilité de pouvoir ranger, organiser tout ça. Parce que ce qui dit achat compulsif dit forcément ou pas forcément, j'exagère peut-être, mais généralement, la maison n'est pas extensible, l'armoire n'est pas extensible, donc ça créerait éventuellement un fouillis. D'accord ?
Alors,
donc, ça voudrait dire que il faudrait effectivement discuter déjà de ça, comme je disais, en préalable.
Donc là, on a des commentaires en plus qui disent qu'au moins, il est conscient que ce n'est pas vivable dans une vie de couple. Mmh. Et merci pour la réponse. Et la raison pour laquelle je te parlais de l'accompagnement, justement, c'est que tu as fait remarquer en début d'intervention que le rapport au rangement, le rapport aux objets a un lien psychologique. Mm-hmm. C'est-à-dire, par exemple, tu peux très bien être de ceux qui cumulent des objets parce que pour toi, avoir, c'est être.
Tout à fait.
Et donc, c'est à mon sens important de réaliser que la discussion est importante, mais enfin, pour la raison pour laquelle je te disais ça, c'est que la discussion est importante, mais en début de couple, on ne sait pas forcément comment communiquer correctement. Passer par un tiers,
les masques ne sont pas tombés.
C'est ça. Mais oui. Donc passer par un tiers ou passer par une personne compétente avec, enfin, au niveau psychologique, coaching. Ou autre peut aider justement à désamorcer certains conflits, même mm-hmm. si on les a identifiés auparavant. Parce que c'est pas parce que tu identifies une problématique que tu sauras la gérer correctement.
Tout à fait. C'est pour ça effectivement qu'on peut parler d'accompagnement en amont, et c'est une bonne chose effectivement d'avoir les prémices sur certains domaines, notamment le domaine de la maison, le domaine du rangement, le domaine de la communication, le domaine des finances. Tout ça, en fait, c'est intimement lié, comme je disais, hein, parce que qui dit rangement, qui dit non-rangement, dit désordre, dit problème financier, problème de santé, problème de stress, problème de vie sociale, problème de finances, problème physique, problème d'éducation. Donc, tout ça, en fait, rentre en compte dans le mariage. Et tout ça rentre en compte. Ça veut dire que c'est une clé, mais aussi si cette clé-là n'est pas mise en place suffisamment tôt, c'est un problème pour plusieurs sphères dans la famille.
Amen. Il y a un commentaire supplémentaire qui dit que lui a du mal à jeter.
Ah ben, il faut jeter, parce que dans... Alors, il faut jeter surtout ce qui ne vous serve pas. D'accord, c'est la première chose qui sera très simple à jeter. Après, il y a des choses utiles où vous serez obligé de jeter. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des choses qui sont dans notre maison, dans notre espace, qui appartiennent au passé, et il faut faire la paix avec ça. Donc, que ça soit utile ou pas, ce n'est pas utile pour toi, pour ton avancée. Ce n'est pas utile pour que tu puisses évoluer. Ce ne sera pas utile dans ton couple, donc tu seras obligé de t'en séparer.
Mais c'est là où c'est difficile. Et là, je vais prendre mon cas concret. Oui. On a encore un peu de temps. Donc, tu as commencé à m'accompagner et on a parlé justement d'un meuble. Là, on va prendre un cas concret, hein, parce que je pense que ça peut intéresser les auditeurs.
Oui.
Donc, on a chez moi, j'ai un meuble à céder. On en a discuté toutes les deux. Mm-hmm. Et tu me disais, Evelina, il est temps maintenant de te débarrasser du meuble à céder avec tous les CD qui sont dedans. Eh bien, le meuble est toujours là. J'ai fait autre chose, mais le meuble est toujours là parce que lorsque l'on a parlé toutes les deux, ça me semblait tellement évident de jeter le meuble et j'étais partante pour jeter le meuble.
Oui,
mais après ça, j'ai commencé. Ben oui, j'avais des objectifs. Je devais t'envoyer une photo, etc. J'ai ouvert le meuble et là, j'ai vu les CD et du coup, c'était tous les souvenirs. Et je me suis dit, mais je ne peux pas jeter ces CD. Il faut au moins que j'enregistre les sur mon ordinateur. Et après, j'ai réalisé, mais ça va me prendre combien de temps à enregistrer tous ces CD ? Et est-ce que vraiment j'en ai besoin, etc. Et donc, j'étais toujours dans cette réflexion jusqu'à ce soir où je me suis dit, non, ça y est, Evelina, c'est resté là pendant plus de 6 mois, pendant plus de, déjà des fois des années et des années. Il y a peut-être 2 ou 3 CD que je vais garder pour souvenir, parce que vraiment, ça me touche.
Oui, tout à fait.
Mais justement, comment aussi, enfin, qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là? Parce que là, tu as dit, il faut jeter, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs en fait qui ont envie de jeter.
Qu'ils ont envie et quand ils arrivent devant, ils se disent « Ouh là là, c'est pas possible ». Ben là, à ce moment-là, effectivement, il faut se faire accompagner. c'est là, effectivement, où j'interviens avec ce que j'appelle l'arbre décisionnel. Et l'arbre décisionnel va te permettre d'avoir les bonnes questions pour savoir comment, pour contrer en fait ta réflexion rationnelle. Parce que souvent, on aura, et puis en plus, c'est même pas rationnel, c'est surtout émotionnel. Mais spontanément, tu vas te dire, mais oui, mais j'aurais besoin de ça. Mais oui, mais si au cas où, le fameux au cas où qui revient sans cesse. Et en fait, non, il y a des questions justement clés pour pouvoir éviter de tomber dans les fameux pièges, de notre cerveau. Parce que notre cerveau, il est là pour nous garder en survie. Et il a l'impression que puis il a des choses, puis il va mieux se sentir. Et que naturellement, le corps humain, le corps, à l'angoisse du vide. Donc, tout ce qui est vide est censé être rempli à un moment donné. Donc, le corps, c'est à l'encontre même de l'existence. C'est-à-dire que même la Bible te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dans l'essence même de l'homme, il y a en fait ce besoin d'être entouré. Donc, ça a besoin d'être entouré par des personnes, mais pour d'autres personnes, justement, un besoin d'être entouré par des affaires, des possessions. Et là, et du coup, c'est là, effectivement, où j'interviens pour pouvoir donner et poser les bonnes questions et aider. Et en fait, c'est souvent ça, c'est qu'on va rester trois ans. Je dis deux ans et encore, on sait très bien que c'est plus que ça. Où on a le fameux meuble à céder qui est là, qui nous accompagne pendant toute une vie et qu'on n'y prend même pas garde. Le jour où on essaie de remettre le nez dedans et pouf, c'est bon, on ne peut plus. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce que pendant tout ce temps-là, il nous a servi à quoi? À part prendre la poussière.
C'est très intéressant ce que tu dis. Je ne sais pas ce que les auditeurs pensent. Si franchement, alors, intervenez dans le chat, dites-nous si ça fait écho chez vous ou pas. Mais là, je sais qu'en tout cas, ce meuble à céder va devoir partir au nom de Jésus.
C'est tout à fait ça. Et ce qui est intéressant aussi dans la réflexion et que je dis aussi aux femmes qui ont du mal à jeter, par exemple, un vêtement, en disant oui, mais j'aime beaucoup ce vêtement-là, je ne peux pas le jeter. Aujourd'hui, tu fais du 46 et du 38, ou c'est du 32, j'exagère encore plus. Voilà, c'est du 32. Plus tu vois le vêtement, plus tu es stressé, plus tu te dis, mais punaise, je ne fais plus le 32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fameux vêtement-là qui est censé t'apporter du joie, parce que l'idée, c'est d'avoir que des choses qui nous mettent qui restent un climat positif autour de nous. Finalement, cette fameuse jupe-là qui a fait son temps, qui nous a rendus très, très joyeux, qui nous a habillés avec élégance à l'époque où tu faisais le 32, aujourd'hui, tu fais du 46, c'est plus possible de la porter. L'idée, c'est de faire le deuil. Parce qu'en fait, ce vêtement-là va faire l'écho chez toi que je ne suis pas encore au 32, je ne suis plus au 32. Et à chaque fois que tu vas l'avoir, tu vas te dire la même chose. Et l'idée, c'est ça encore. C'est de te dire, bah, écoute, je vais passer à autre chose, je la donne. Après, il y a aussi la méthode de STAR. Soit tu donnes, tu jettes, tu stockes. Mais bon, il y a des choses que stratégiquement, on va stocker, des choses stratégiquement, on va vendre, et des choses aussi qu'on va donner, etc. Mais voilà, prendre la décision de savoir qu'est-ce qu'on en fait, mais prendre la décision de s'en séparer. Parce que finalement, ce vêtement-là ne t'apporte pas plus de joie, mais t'apporte plus de frustration. Voilà.
Eh bien, écoute, je te remercie pour toutes ces précisions. J'espère que ça aidera les auditeurs.
Oui, et j'espère aussi.
Pour la clôture, je vais te laisser avec Béatrice.
D'accord, très bien. En tout cas, n'hésitez pas à... ce sera aussi dans le lien du descriptif de mon intervention ce soir sur la radio, mais n'hésitez pas à télécharger du coup le workbook qui va vous donner des clés. C'est vraiment un outil pour vous donner des clés pour déjà là, à votre niveau, commencer à faire quelque chose pour l'avenir de votre maison, pour l'avenir de votre famille, pour l'avenir de votre couple.
Voilà. Je l'ai mis aussi dans le chat de YouTube.
Ok, merci, super.
Très bien. Merci beaucoup, Claudia et Evelina.
Derrière Béatrice.
Oui, que cette rencontre a été effectivement bénéfique pour chacune de nous et chaque auditeur, hein, parce qu'on en apprend toujours et on souhaite forcément l'épanouissement de sa famille. Donc, avoir du rangement, savoir que les choses ont une place, et cela permet à avoir des clés pour le succès du mariage. Je pense que c'est pas à mettre de côté, à prendre en considération. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, chers auditeurs, que nous aurons d'autres rencontres avec Claudia ou avec d'autres intervenants, où d'autres sujets seront évoqués, toujours dans le cadre du bien-être de la famille. Alors, nos rencontres ont lieu deux fois par mois. Si j'ai une bêtise, vous pouvez me corriger, je ne pense pas. Et RTA fonctionne, comme vous le savez, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous avons différents temps réservés à la famille, comme on a eu ce soir, et aussi pour l'intercession, une fois le dimanche, dimanche dans le mois. Non, pour l'intercession, tous les dimanches à 19h. Et c'est pour la demi-journée de jeûne, c'est une fois dans le mois. Non, c'est le troisième dimanche, je ne sais plus si c'est bien celui-là, je peux me tromper. Donc, en écoutant Radio Trois Anges régulièrement, vous aurez forcément les programmes. Nous avons aussi une prière qui se fait de façon mensuelle, bimensuelle, je ne sais plus, non, une fois dans le mois ou une fois, ou un mois sur deux. J'ai tendance à oublier, excusez-moi. En tout cas, vous invite à être...
Oui, je t'écoute. Je vais te donner la précision. La demi-journée, il y a une demi-journée de jeûne et de prière le troisième dimanche de chaque mois, de 7h à 13h.
Exactement. Merci pour la précision, je le sais.
Je peux aussi vous annoncer la prochaine émission du 21 décembre sur les couples, familles et célibataires, qui aura pour thématique « Construire une routine gagnante pour propulser sa vision de 2023 ». Donc, l'intervenante sera Morgane Turlet, qui est coach en organisation. Et donc, je vous redonne le thème « Construire une routine gagnante pour propulser sa vision de 2023 ».
D'accord, très bien, sujet très intéressant. J'espère que vous serez nombreux à être à l'écoute. Alors, en tout cas, nous remercions Claudia, Evelina et puis Radio Trois Anges pour cette rencontre que nous avons trouvée fort intéressante. Que Dieu puisse bénir chacun dans son engagement, dans son application et puis pour le bien-être des familles qui nous sont chères. Passez une très bonne soirée et je donne rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines, c'est ça, et puis aux différents programmes qu'on vient d'évoquer. Passez une très bonne soirée, on se dit à très bientôt.